des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillée dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Depuis quelque temps, on entend beaucoup, beaucoup parler de cette idée de définancer la police ou de désarmer la police. Cette idée qui a refait surface même avec le parti de Valérie Plante, où on jongle très sérieusement avec cette idée-là. Ça fait bondir et sauter au plafond plusieurs policiers actuels et d'anciens policiers. On va en parler avec Paul Laurier, c'est un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et il est président et fondateur de Vigitech, une entreprise qui offre des solutions informatiques judiciaires. Il est aussi consultant pour des agences d'application des lois pénales et criminelles. Bref, Monsieur Laurier, bonjour.
Bonjour.
Quand on parle de deux dossiers différents, quand on parle de définancer la police ou quand on parle de désarmer la police, vous, en tant qu'ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, vous réagissez comment quand vous entendez parler de ça?
Ben, en fait, les deux dossiers, quand on dit définancer la police, ça me, c'est vraiment, c'est des gens qui parlent qui ne sont pas, qui n'ont pas la réalité du terrain. Oui, mm-hmm. Moi, je dirais plutôt réorganiser la police, effectivement, qu'une police, hein, c'est toujours les, dans ma carrière et la carrière avant, je retournerai demain matin, ben il y a des choses qui sont changées, il y a des réalités qui changent, donc faut ajuster des budgets, faut ajuster les priorités, et ça, c'est constant dans les corps de police, tous les corps de police et tous les villes, et la manière de que la loi de police est faite au Québec, ben les réalités changent régulièrement. Mm-hmm. Et puis ça, c'est sans compter aussi des problèmes d'organisation. On a vu combien de chefs de police suspendus, accusés, aller à droite, à gauche, des comités des suspensions, des relevés provisoires. Donc c'est sûr qu'on a un problème de gestion important dans les corps policiers, ça je vous dis. On peut pas se cacher là-dessus, puis il y a une nouvelle loi qui s'en vient. Donc, il y a administrativement, au niveau organisationnel, il y a des choses à faire importantes au niveau de la police. Pour ce qui est d'autres dossiers, ben je vois pas comment on peut enlever des armes de service à des policiers au Québec, surtout qu'on est la province qui est collée sur un géant qui s'appelle les États-Unis, où les armes de poing circulent abondamment et
voilà.
Avec nos frontières voyons nos frontières poreuses, ben les policiers dans la rue sont constamment sous pression. Vous savez pas quand vous interceptez quelqu'un, quand vous interceptez des gens ou vous les approchez ou vous avez des interventions à faire, ben c'est pas les meilleures personnes que vous avez quand vous avez affaire à la police en général. C'est pas parce que c'est des gens qui sont calmes et soumis et parfois oui là, mais
C'est pas des enfants de cœur.
C'est ça. C'est que vous devez avoir, puis là, ben, on commence avec quoi? On n'a pas d'armes, on va remplacer par un truc, ça va prendre la caméra, après ça, le taser, après ça, le bâton télescopique, après ça, quoi? Des gants, l'arme de service est toujours, je vous dirais, pour l'avoir, quand vous avez à vous en servir dans votre pratique policière, ben c'est toujours l'arme ultime. Et la personne de l'autre côté comprend que la limite, vous avez dressé une limite, vous avez dressé un périmètre ou vous essayez d'endiguer une situation qui est hautement dangereuse. Et puis là, c'est une question de réaction de
ouais.
Quelques secondes. Oui, il y a des erreurs. Oui, il y a des tirs qui n'ont pas lieu. Oui, il y a des policiers qui sont bannis. Mais moi, je vois pas comment un policier à Montréal peut être désarmé présentement. Les enquêteurs, j'avais une discussion la semaine dernière avec
oui.
Un corps de police, puis c'est rendu que les jeunes de 14-15 ans ont des armes parce que la rue est rendue comme ça, les interceptions, les arrestations, vous arrêtez quelqu'un pour fraude, puis vous saisissez des armes, là. On est rendu là.
Ah, 14-15 ans, Monsieur Laurier?
Oui, parce que le milieu, on commence à avoir à Montréal des no man's land. Et ça, ben, c'est une réalité. Puis c'est oui, il faut faire quelque chose. Puis oui, mais les policiers au Québec ne sont pas des travailleurs sociaux, ne sont pas formés comme des travailleurs sociaux, n'ont pas des cours universitaires pour être des travailleurs sociaux. Avec tant qu'on va avoir des gens qui sont des techniciens, ben, puis qu'on les fait intervenir dans des milieux dangereux, je vois pas comment on peut leur enlever des armes à feu. C'est tout à fait illogique, à moins qu'on leur donne des machettes, mais ça prend une arme. Non, mais il y a quelque chose qui doit... On doit suivre une certaine logique, puis c'est pas que je suis pas un gars violent, et je suis pas pro-arme du tout, malgré que je trouve que les... on se fait... J'en ai des armes de chasse, je suis un chasseur, je réponds à toutes les registres, à toutes les demandes que le gouvernement fait parce qu'on va bannir des armes. Les armes, la problématique, on est sur le bord d'un géant et tant que ce géant-là va fournir des armes et produire des armes, on va être capable de les importer. Là.
C'est ça.
Et le crime organisé le sait, ça, on se ramasse avec des jeunes de 14 ans, 15 ans dans la rue qui ont des armes à feu.
Ouais. Alors, il y a un de mes amis Michel Trudeau, là, le conjoint de Fabienne Larouche, donc qui est producteur, qui a mis sur les médias sociaux hier une scène d'un film de la mafia avec des gens qui rigolent, mais vraiment qui rient à gorge déployée, et il a mis cette image-là à côté de textes donc qui disaient qu'il y a différentes propositions pour désarmer la police. C'est sûr que si demain matin on commence à désarmer la police, ceux qui vont s'en frotter les mains et qui vont rire de ça en disant « Waouh, c'est formidable, c'est génial », c'est les gangs de rue, la mafia, les Hells, parce qu'ils vont avoir en face d'eux une police désarmée dans tous les sens du terme. Là.
Ben, je vous dirais que ça va être plus les gens d'extrême gauche, les casseurs, les...
Ah oui?
Oui, parce que eux ont aucune conséquence, vont pouvoir encore plus souvent aller dans des manifestations. Le gaz de preuve de Cayenne n'aura pas de... Quand vous savez qu'un policier n'est pas armé, vous pouvez essayer de le provoquer puis d'essayer d'avoir un combat physique. Parce que la mafia, les gangs de rue, il va toujours avoir des gens armés, il va toujours avoir du terrorisme, il va planer sur nous, il va toujours avoir des policiers armés. Mm-hmm. Vous faites juste étirer le délai d'avoir quelqu'un qui va être armé, même les Barbies qui étaient la meilleure.
Les policiers britanniques, oui.
Les policiers britanniques, mais il y a des gens depuis des attentats, depuis que la ville a été frappée, puis l'Angleterre a été frappée par des attentats terroristes, ben il y en a de moins en moins, et puis il y a toujours des gens armés qui sont pas tellement loin, des voitures. Si eux ne sont pas armés, des voitures, il y a des armes dans les voitures, et puis...
Il y en a de moins en moins qui ne sont pas armés, excusez-moi, c'est important de bien comprendre, M. Laurier. Il y a de moins en moins de bobbies qui sont pas armés, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, parce que quand vous arrivez avec quelqu'un qui va vous pointer un couteau, qui est une méthode qui a été implémentée, on l'a vu par les derniers mouvements terroristes, ben alors vous pouvez y aller avec, si vous n'avez pas de machette ou vous sortez pas votre sort pour faire d'escrime, vous devez, pour menacer, c'est-à-dire pour contrôler une menace ou pour arrêter une menace, ça vous prend l'arme ultime qui est l'arme à feu. Il y a pas de, il y a une précision, vous êtes dans une foule, vous n'avez pas à attendre, vous n'allez pas faire un corps à corps avec quelqu'un qui est armé d'un couteau. D'une lame, c'est extrêmement dangereux. Le couteau peut partir, il y a des délais, c'est connu là, dans l'utilisation de l'arme, de l'utilisation de le compendium de l'utilisation de l'arme de poing, ben l'utilisation de la force, en fait, là, l'arme fait partie du dernier recours pour des situations extrêmement dangereuses. Donc, il n'y a pas... c'est des rêves, mais dans la réalité, dans la rue, c'est pas comme ça que ça se passe.
Ouais.
Puis je vois pas comment, en Amérique du Nord, on peut penser enlever les armes aux policiers.
Alors, parce que je vous ai vu réagir, bon, une chronique de Mario Girard dans La Presse, et vous aviez l'air de dire que, bon, il connaissait pas, il savait pas trop de quoi il parlait, et surtout, il y a une espèce d'angélisme, parfois, auprès des gens qui, puis je pointe pas en particulier Mario Girard, mais je veux dire, il y a un certain angélisme des gens qui n'ont pas la connaissance du terrain. Donc, c'est facile pour nous, comme gérants d'estrade, de dire oui, il devrait être armé, non, il devrait pas être armé. Il reste que moi, je connais pas la réalité sur le terrain, alors que vous, vous la connaissez. Est-ce que au sein de la police, est-ce qu'il y a vraiment des gens au sein de la police, parce qu'on a vu la réaction de M. Francaire, mais est-ce qu'il y a des gens au sein de la police qui eux considèrent en effet que ce serait une bonne chose pour eux de d'avoir moins d'armes?
Ben, je vous dirais que si vous êtes un patrouilleur, puis à l'époque, il y avait quand vous êtes des patrouilleurs de rue et que vous avez dans des quartiers où c'est plus tranquille, mais lorsque vous êtes appelé à intervenir, c'est pour l'image de la police, l'image du citoyen. Moi, je vais à Times Square, je vois des policiers armés, il y a des policiers à New York il y a des années où il n'y en avait pas du tout. Maintenant, il y en a partout. Avec tous les effets, les attaques terroristes qu'il y a eu, les attaques, les camions béliers, tout ça. Ça me rassure. Moi, l'arme, l'uniforme, ça me dérange pas. Vous allez me dire que c'est un peu normal, mais je pense que pour la majorité des gens, la sécurité, c'est un sentiment que l'arme soit visible ou pas, mais que l'arme soit là. Il y a plusieurs attaques au couteau. Il y a encore plusieurs. Il y a des agressions avec des gens qui sont armés. Ben oui, ça se peut qu'il y ait des policiers qui... Mais moi, en tout cas, j'ai toujours porté mon arme de service. J'ai été enquêteur, j'avais l'arme de service toujours dissimulée. Ça fait partie de la vie, ça fait partie... Vous n'allez pas rencontrer les plus angéliques de la société. Vous savez jamais à qui vous avez affaire. Puis
voilà.
Ça fait partie de la dissuasion. Ça fait vraiment partie de la dissuasion. Puis de corps à corps, ben... si vous ne sortez pas gagnant d'un corps à corps, puis vous avez l'arme de poing, ben vous êtes sérieusement dans le pétrin.
Est-ce que les policiers devraient avoir le droit de garder leur arme avec eux quand ils ne sont pas en service? Parce que, je vous donne un exemple, quand il y a eu, par exemple, le Bataclan en France, des terroristes islamistes qui sont rentrés dans cette salle de spectacle et qui ont commencé à tirer dans la foule, il y a des gens qui ont dit, ben s'il y avait eu ne serait-ce que des policiers en civil ou des citoyens avec une arme, on aurait pu neutraliser les deux, je pense qu'ils étaient deux ou trois, terroristes. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là, M. Laurier?
Ben nous, à l'époque, au Québec, on pouvait, quand j'ai commencé, on pouvait amener l'arme à la maison, on pouvait s'en venir à la maison. Dès qu'on était en uniforme, l'uniforme impliquait directement le port de l'arme. Et il y a eu une l'époque où M. Chevrette s'était fait...
Guy Chevrette, oui.
S'était fait brasser dans une manifestation par la manifestation des sorties du Québec avec des gens qui étaient en uniforme. Et là, à ce moment-là, il avait été décidé, parce qu'il y avait des gens qui étaient en congé. C'était pas des gens qui étaient en service, mais c'était dans des gens qui étaient en congé, mais qui portaient l'uniforme, donc qui portaient l'arme de service. Monsieur Trichevette avait été frustré. Il avait enlevé à tous les policiers québécois le droit d'avoir les armes à la maison. Par contre, je sais qu'il y a des autorisations maintenant qui se font pour les gens qui travaillent effectivement le crime organisé ou qui vont travailler les gangs de rue ou qui vont avoir certains types de dossiers. Ils ont le droit d'amener les armes à la maison là, avec la règle du barré-barré, l'arme barrée dans un coffre barré. Soit avec le véhicule de service ou des gens qui vont travailler sur les crimes contre la personne là, qui sont appelés à se déployer très rapidement. Ils ont des voitures dans lesquelles les armes sont avec eux, mais la règle au Québec, vous n'avez pas le droit d'avoir vos armes à feu à la maison, sauf en cas d'exception, puis c'est autorisé par le patron. Là.
D'accord. Je reviens à ce que vous nous avez dit tout au début, Monsieur Laurier, quand vous dites des jeunes de 14-15 ans qui ont des armes. On connaît bien sûr toute cette histoire là de trafic d'armes entre les États-Unis et le Canada et le Québec en particulier. On sait aussi la facilité avec laquelle on peut imprimer en 3D certains éléments d'une arme pour ensuite l'assembler. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'armes en circulation, donc ce serait un peu contradictoire de dire au moment où les vilains, les bandits sont de plus en plus armés, que c'est précisément ce moment-là qu'on choisit pour enlever des armes aux policiers. C'est un peu cette contradiction-là que vous soulevez, là.
Ben, il y a cette contradiction-là, mais les armes ont toujours été là et et le contexte rural, c'est-à-dire rural entre guillemets, il y a Montréal, mais il n'y a pas juste Montréal, il y a le contexte oui. aussi, vous intervenez, vous devez aller, il y a une chicane de famille maintenant, souvent des armes à feu de chasse. Là, c'est pas si vous êtes pas armé, c'est pas on va pas commencer à demander à la police d'appeler la police qui va appeler la police qui est armée. Puis on a un problème d'effectifs, puis on a un problème de fonds, c'est qu'on va diminuer les fonds, on va diminuer le nombre de police. Puis là, en plus, les polices qu'on va mettre, on va les mettre non. Fait qu'il faut comprendre l'intervention, la vitesse d'intervention, quand les appels rentrent, comment ça fonctionne. Puis on prend des véhicules les plus rapprochés. Mais là, si on commence en plus, on l'a vu avec le taser, c'est pas tout le monde qui l'a. On le met pas. Si on l'insère, c'est des coûts, ça fonctionne plus ou moins. Puis là, ben. Si tout le monde en a, ben c'est des fortunes. Si l'arme de service a toujours été, je vous dirais, pour les bandits, quand vous voyez un trou de canon de face, en général, ça calme, pour être une bonne expression française, ça calme le pompon. Je vous dirais, mais moi, je m'en suis servi peut-être, il y aurait peut-être 3 ou 4 interventions de mémoire où des gens ont vu le bout du canon. Et ça se calme assez rapidement.
Les c'est assez dissuasif.
Oui, puis vous, quelqu'un qui est en contrôle, puis va le voir dans vos yeux, va le voir dans le langage, il y a des gens qui ne comprennent plus. Ça commence toujours par... Et puis là, j'invite les gens à aller à l'école de police. Il y a un document là, qui va parler de la force, comment on utilise la force, comment c'est un continuum et comment les policiers vont intervenir. Mmh. On va commencer par la parole, on commence pas tout de suite par l'arme à feu. Il y a des discussions, il y a des tentatives.
Il y a une graduation.
Il y a une graduation, il y a des ordres qui vont être en... Puis quand les gens ne comprennent pas, ça peut prendre zéro, ça se fait entre 0 et 15 secondes. Si vous avez quelqu'un qui est armé ou d'un couteau, puis après 2 ou 3, 4, 5, 6 sommations, la personne ne réagit pas, puis va faire un mouvement, ben c'est soit que c'est une tentative, que la personne veut passer à l'acte, ou c'est des suicides programmés, là, mais ça fait partie du travail policier. Si on n'est pas capable de rentrer en contact, puis s'il y a une vie en danger, les policiers sont là pour protéger des vies et les leurs aussi.
Écoutez, ça a été vraiment... Oui, ça a été vraiment Allez. Passionnant comme discussion, Monsieur Laurier. Donc, on sait que, bon, évidemment, Monsieur Francoeur, la fraternité des policiers, a vraiment mis une fin de non-recevoir à cette idée-là du parti de Valérie Plante. Et on sait également qu'il y a des maires de différentes municipalités qui ont dit, c'est complètement farfelu. Donc, ce qu'on comprend de ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous partagez cette définition-là de farfelu.
Absolument. Ben, en fait, c'est farfelu et c'est irréaliste. C'est comme on n'est pas rendu là au Québec. Là. On n'est pas l'Angleterre. Puis même l'Angleterre, il y a des statistiques qui prouvent que dans certains milieux, on a réarmé des policiers. C'est une fausse bonne idée. Les policiers, c'est la ligne finale entre les policiers sont là, c'est parce que ça va pas bien. Hein. On appelle la police parce que ça va pas bien.
Ouais. En général, c'est pas mal comme ça que ça se passe. Monsieur Laurier, merci beaucoup d'être venu nous parler. Je rappelle que vous êtes un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et que vous êtes président et fondateur de Vigitech, une entreprise qui offre des solutions informatiques judiciaires. Toujours intéressant de vous parler. Merci, Monsieur Laurier.
Passez une bonne journée.
Merci.